Le journal, Alexandre Michler, bonjour.
Bonjour, les travaux préparatoires du parc éolien de Mont-Tremblant s'apprêtent à débuter. Le chantier s'ouvrira lundi avec une phase de défrichement tout d'abord. Explication dans un instant. Une première Suisse s'est déroulée hier à Bienne, le Swiss Poetry Slam Championship, compétition de slam qui s'est tenue sous le chapiteau du Lake Live. La Zurichoise Annika Biedermann a été couronnée. Nous avons rencontré l'une des membres du jury. Et puis en sport, le FC Bézabienne reprend le championnat de Première Ligue. Demain, il affronte Soleure avec à la tête de l'équipe le Polonais Dariusz Skrzypczak. Météo estivale aujourd'hui, ce week-end, mais aussi en début de semaine prochaine. Attention à la chaleur avec des températures qui pourraient atteindre, voire même dépasser les 35 degrés. Le chantier des éoliennes du Mont-Tremblant s'apprête donc à prendre son envol. BKV l'a annoncé en conférence de presse ce matin. Les travaux préparatoires pour le parc éolien débuteront lundi sur les communes de Tremblant et de Secourt. 6 éoliennes sont prévues. Le chantier commence par une phase de défrichement, comme l'explique Julien Gallet, responsable du projet pour BKV.
Alors, il s'agit principalement de réaliser les infrastructures de raccordement de ce parc éolien. On a deux accès principaux qui vont être réalisés et ça nécessite évidemment de faire des défrichements, des constructions de routes, des décapages et aussi la réalisation des fouilles pour les conduites électriques.
Et tout ça, donc, ça constitue la première étape des travaux. Est-ce qu'on sait combien de temps ça va prendre ?
Oui, on a envie de profiter du beau temps actuellement pour les décapages et tous ces travaux préparatoires se poursuivront jusqu'à qu'on puisse, jusqu'en novembre, fin novembre. Ça dépend de la météo, s'il fait beau, on va continuer avec les travaux préparatoires pour avancer le plus rapidement possible l'année prochaine.
Le projet qui avait été accepté en 2015, il est ensuite passé par plusieurs recours allant jusqu'au tribunal fédéral avant de pouvoir continuer. Le début de ces travaux est donc significatif pour Hervé Gulotti, le maire de Tremblant.
Pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment le début, la concrétisation d'un projet qui date. Il a 10 ans aujourd'hui, donc les premiers travaux préparatoires sont pour nous la concrétisation, le moment où effectivement on va pouvoir construire ce parc.
Est-ce que ces travaux vont perturber un peu la circulation à Tremblant ?
Ces travaux ne vont pas spécialement perturber la circulation à Tremblant. Par moment, évidemment, quand les BKV devront amener de la chaille, par exemple, ça, c'est clair qu'il y aura peut-être un regain de trafic, mais on a fait en sorte qu'entre les travaux à la gare qui vont débuter normalement en 2027, les travaux de la Grand Rue qui devraient aussi débuter dans cette période-là, on a essayé de faire en sorte de coordonner au mieux l'ensemble de ces perturbations possibles pour les usagers de la route et du train, afin qu'il n'y ait pas d'incidence majeure.
Un dossier signé Colline Grasset. Les informations concernant la circulation seront signalées à l'aide de pancartes, mais il est possible de contacter directement les services techniques de la commune pour obtenir plus d'informations. Le fabricant de chocolat de Courtlary, Camille Bloch, réagit à la hausse des droits de douane. Pour Daniel Bloch, le directeur de l'entreprise qui fabrique notamment le Ragusa, cette situation représente un grand défi, a-t-il déclaré à nos confrères de Télébilingue. Selon lui, bien que la Suisse demeure le principal marché, ces nouveaux droits de douane menacent particulièrement l'exportation de chocolat cachère vers les États-Unis. Il ajoute que le chocolat suisse deviendra plus coûteux et pourrait à l'avenir n'être perçu en tant que produit de luxe dans ce pays. Et la mise en œuvre de ces taxes douanières punitives aux États-Unis pour les produits suisses a incité la société bernoise Ipsomed à prendre des mesures urgentes. Le fabricant de dispositifs d'injection est basé à Berthoud et il a décidé de transférer une partie de sa production de Suisse en Allemagne. C'est ce qu'indiquait le directeur général Michel Simon dans une interview ce matin au quotidien Le Temps. Et puis on apprend aussi ce matin que les États-Unis imposent désormais des droits de douane sur les lingots d'or d'un kilo. C'est ce que révèle le Financial Times. C'est un nouveau coup dur pour notre pays. En effet, les raffineries suisses prévoyaient des exemptions pour les grandes barres d'or. Ce n'est donc pas le cas. La nouvelle championne suisse de slam a été couronnée hier soir à Bienne. L'événement était une première en Suisse. Le Swiss Poetry Slam Championship qui a eu lieu sous le chapiteau du Lake Live Festival. C'est Annika Biedermann, une slameuse zurichoise qui représentera donc notre pays au championnat d'Europe en 2026 en Autriche. Des slameurs suisses-allemands, romans, tessinois, romanches ont déclamé leurs textes et le public et le jury pouvait lire la traduction dans un livret. Mais comment juge-t-on des créations aussi personnelles et variées ? Pour répondre à cette question, Elisa Cavaglione, membre du jury, nous l'avons rencontrée et elle nous relate son expérience.
Alors c'est assez difficile, j'ai dit, je ne m'imaginais pas qu'il était autant difficile. On a bien sûr un peu des préférences en fonction des langues qu'on connaît. On maîtrise tous un peu toutes les langues, mais c'est clair que, par exemple, moi, avec l'italien et le français, j'ai un peu une préférence, ou c'est plus facile pour moi à comprendre un peu le style. Et puis, ce qui est aussi complexe, c'est de quand on commence, on entend le premier, mais on n'a pas des comparaisons avec les autres. Et du coup, c'est très difficile au début de mettre une note quand on ne sait pas les autres, qu'est-ce qu'ils proposent, et on n'a pas de comparaison possible.
Est-ce que vous ressentez, au-delà de la langue, des sensibilités différentes dans les thèmes, les styles, selon soit francophone, alémanique, italophone ou bien romanche.
Moi, je trouve, je parlais tout à l'heure avec la jury, la personne qui fait la jury en français, je trouve le français a vraiment une sonorité et cette culture des jeux de mots impressionnante qui fonctionne, qui marche très bien sur scène. C'est vraiment une culture française qui est bien représentée et aujourd'hui, on pouvait bien voir ça. Il y en avait qui lisaient le texte, il y en avait qui, par contre, performaient vraiment. Je pensais aussi un peu des cultures différentes, peut-être dans les différents cantons qui émergent.
On a Elisa Cavaglione, est membre du jury de ce concours de slam suisse. Hier, à Bienne, elle répondait à Josette Sédou. Toute cette semaine, on s'est immergé dans les préoccupations des agriculteurs de notre région. Notre série d'été est allée à la rencontre des émotions qu'ils rencontrent dans leur métier. Dernier volet aujourd'hui avec un focus sur le risque d'incendie qui peut ajouter du stress au quotidien, encore plus pour ceux qui l'ont déjà vécu. C'est le cas de la famille Chance. Après elle, en 2007, l'exploitation était partie en fumée à cause d'une erreur d'un artisan sur la façade de la maison. Même si ce n'était pas de sa faute, Fritz Chance a gardé une trace indélébile de cet incendie.
Donc c'est clair, suite à cette expérience qu'on a faite, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Je ne dirais pas tous les jours, mais il y a certaines choses, disons, où on fait un petit peu plus attention. Donc par exemple, quand on rentre du fourrage, surtout donc du fourrage qui devrait être sec et des fois pas tout à fait sec. Après, il y a le risque de fermentation, que le fourrage peut chauffer. Et puis après, une fois un certain degré de température est atteint, donc il peut s'enflammer lui-même. Et puis c'est là surtout qu'il faut avoir un œil dessus. Donc nous, on fait surtout de l'ensilage, mais ça peut aussi arriver que des fois on ait du fourrage qui devrait être sec, qui n'est pas tout à fait sec, et puis qu'il faut faire attention à ce point-là, quoi.
C'est quoi l'ensilage et en quoi ça protège du risque d'incendie ?
Donc si vous voulez l'ensilage, donc c'est du fourrage qu'on récolte qui est principe pas tout à fait sec, qui est préfané et puis après donc qui est soit mis dans des silos polyester, silos en béton ou bien emballé dans du plastique et puis de ce fait il devrait être hermétiquement conservé et puis de ce fait il n'y a pas d'oxygène qui a accès au fourrage, quoi.
Ok, mais malgré tout, dans votre exploitation, le risque d'incendie persiste.
Bon, on a aussi des machines, on travaille avec l'électricité. Faut toujours aussi faire attention qu'il n'y ait pas de court-circuit. On a des machines qu'on utilise donc avec des câbles, avec des rallonges. Là aussi, donc moi, en tout cas, maintenant, vu qu'on a vécu ça, donc je fais toujours attention qu'après, une fois que les machines sont plus utilisées, on range les rallonges, on les déconnecte de la prise. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de braise, il n'y ait pas de mégots de cigarettes aux alentours, quoi. Ça peut aller vite, même quand il y a des feux d'artifice, il y a des fusées qui partent aux alentours de la ferme. Donc, on a toujours un petit peu un sentiment, une préoccupation qu'il pourrait arriver quelque chose, quoi. Aussi, des fois, ça m'arrive, disons, il y a quand même de temps en temps des gens qui font des feux aux alentours. Et puis, quand on a un petit peu ça dans le nez, d'où c'est que ça vient, qu'est-ce qui se passe, quoi, disons, quoi.
Surtout que vous avez vécu un drame, donc un incendie. Ça fait quand même que vous avez une inquiétude en plus.
Une inquiétude, oui, ça ne nous préoccupe pas tous les jours, mais on y pense régulièrement. Parce qu'après, disons, un incendie comme on a vécu, donc ça amène quand même pas mal de conséquences assez importantes. Donc si on a du bétail, il faut après pouvoir le reloger, il faut retrouver du fourrage. Si par exemple ça arriverait en automne que toutes les réserves de fourrage sont détruites, donc il y a quand même pas mal de choses qui nous préoccupent si ça arriverait, quoi, disons.
Voilà Fritz Chance, agriculteur après elle, qui expliquait à quel point le risque d'incendie est une préoccupation dans son métier. Il répondait à Josette Sédou. Dans le Jura, le canton ne versera pas un franc dans le projet du nouvel hôpital. Il devrait voir le jour dans le quartier Gare Sud de Delémont. Le coût, 160 millions de francs. 65 millions viennent de prêts citoyens d'industriels jurassiens. 20 millions prêtés par la caisse de pension et 75 millions de financement auprès d'une banque d'importance nationale ayant un fort ancrage régional. Ce sont les prêts citoyens que l'hôpital du Jura peut utiliser comme fonds propres qui ont permis cette solution qui rend ce montage financier exceptionnel, comme l'explique Jacques Gigax. Il est le président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura.
C'est sa force. Alors, on est bien conscient du contexte économique canton du Jura, donc on ne peut pas recapitaliser l'hôpital de coups de baguette magique. Alors, on a ce montage avec des prêts citoyens, tout à fait un geste remarquable, qui déclenche alors l'obtention d'un prêt bancaire et d'un prêt de la Caisse de pension publique et canton du Jura. Donc, on a ce financement exceptionnel parce qu'on a des conditions qu'on peut qualifier de patriotiques, mais aussi parce que la condition, c'est que l'hôpital public le reste. Donc, c'est bien l'hôpital du Jura qui construit, qui exploite ce nouvel hôpital Gare Sud, on a une fenêtre d'opportunité assez exceptionnelle pour maintenir ce site de soins et du clé, mais avec un financement qu'on aurait difficilement réuni sans ce prêt citoyen ou patriotique.
Voilà, Jacques Gigax, président du conseil d'administration de l'hôpital du Jura, donc sur ce projet de nouvel hôpital financé sans apport de l'État jurassien. Le canton du Jura devra toutefois octroyer une garantie publique à hauteur de 95 millions, garantie qui couvre les prêts de la banque et de la caisse de pension. Il reviendra au Parlement jurassien de se prononcer sur ce cautionnement. Où les parlementaires fédéraux partent-ils en vacances et comment choisissent-ils leur destination? Cette semaine, nos correspondants à Berne vous proposaient de partir en voyage avec 5 élus fédéraux. Le dernier, c'est le Genevois Thomas Blaisil, siège au Conseil national depuis 2023. Et cet été, eh bien, il ne prend pas de vacances. L'élu UDC est propriétaire d'une pharmacie et la situation économique de son entreprise ne lui permet pas de partir. Il n'a pas quitté la Suisse depuis 2018, mais dès qu'il le pourra, il s'offrira des vacances. Thomas Blaisil dévoile où il a envie d'aller.
Alors ça dépendra du temps que je peux prendre. Si je peux prendre un long séjour, je pense que j'aurais envie d'aller faire un séjour balnéaire parce que ça fait très longtemps. Mais comme je pense que j'aurais plutôt au départ l'occasion de prendre quelques jours, eh ben, je profiterais d'aller voir le chemin creux, le Trommelbach, la Jungfrau ou Zermatt.
Donc vous appréciez vraiment de voyager en Suisse?
Oui, j'apprécie beaucoup de voyager en Suisse. C'est vrai que ma situation professionnelle fait que ça m'impose aussi un peu le choix parce qu'il est plus facile de partir près de chez soi quand on a peu de temps sur les ponts ou sur ce genre de choses. Je pense que j'ai un indice carbone vraiment qui est tout à fait raisonnable, n'ayant pas de voiture depuis 6 ans non plus. Je pense que je pourrais m'autoriser un voyage balnéaire sans avoir trop de remords de ce point de vue-là.
Voilà, sujet signé Marie Viomier, Thomas Blaisil qui n'a pas de principe particulier pour choisir ses destinations de vacances. Il veut surtout se détendre et découvrir de nouveaux endroits.
Il est 12h28.
RJB Sport.
Place aux choses sérieuses pour le FC Bézabienne. La formation de première ligue de football reprend le championnat demain à 18h à Soleure après un maintien obtenu dans la douleur l'an dernier. Béza espère faire mieux cette année en terminant dans le milieu de classement. Pour cela, il mise sur plus de stabilité concernant le coaching staff. L'an dernier, en effet, plusieurs entraîneurs se sont succédés sur le banc de la formation célandaise. Mais cette fois-ci, l'entraîneur polonais Dariusz Skrzypczak semble avoir convaincu le directeur sportif Arsène Ramadini.
C'était une période très très intensive pour nous. On a réfléchi bien que ce qu'on n'a pas fait du bien la saison passée. On a cherché la stabilité avec un entraîneur qui a beaucoup d'expérience, qui a joué en Suisse au Super League, qui a joué pour l'équipe nationale de Pologne, qui a gagné des trophées, qu'il sait comment être un entraîneur dans une équipe avec des jeunes joueurs, mais aussi avec des routiniers. Ça a duré, c'est clair. On a cherché 4-5 semaines et puis on a trouvé Dariusz Skrzypczak qui nous a montré qu'il est prêt pour cette expérience avec Bessa. On va aussi profiter de la vue du jeu que lui, il porte à l'équipe. On va profiter en manière tactique, en manière technique. On va profiter au niveau conditionnel. Et puis, ça, c'est des points qui vont faire mieux, je crois.
On a noté que 10 joueurs ont intégré le contingent de l'équipe pour la prochaine saison, mais la structure de base n'a pas réellement changé, selon Arsène Ramadini. En quai sur glace, un premier galop d'entraînement pour le HC Bienne. L'équipe ceylandaise de National League dispute ce soir son premier match amical de l'été. Elle défile à Chaudes-Fonds à 19h sur la glace de Fleury. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, plus de 200 pilotes s'élanceront sur le mythique tracé entre Saint-Ursanne et les Rangiers. Ils seront 217 précisément. Le gratin européen de la course de côte automobile sera de la partie le week-end prochain dans le Clos du Doubs. Les régionaux aussi, ils seront plusieurs dizaines au départ selon une annonce faite aujourd'hui. Le directeur de course Roland Picret s'en réjouit et explique les raisons qui ont poussé autant de pilotes à s'inscrire pour ce rendez-vous.
Je pense que depuis qu'on a fait le nouveau revêtement, on s'est rendu compte que la piste est mieux sécurisée, que les voitures ont moins de soucis de tenue de route, je dirais. Et on se rend compte que les deux dernières années, 2023-2024, on n'a pratiquement pas eu de sortie de route. Et ça, ça se dit que c'est une piste qui est sécurisée, que tout ce qui se fait à côté. Et puis les pilotes, quand on discutait avec certains dans les cadres du championnat suisse, ils disaient « Ah non, mais au Rangier, ça va trop vite, et puis si on sort et tout. » Et puis actuellement, ils disent « Ah non, mais on vient au Rangier parce que là, on a le frisson. » Alors qu'avant, c'était la peur. Et maintenant, c'est ce frisson, cette satisfaction d'être arrivé en haut.
Beaucoup de monde, beaucoup de qualité aussi. Il y aura de la bagarre pour différents classements, tant au niveau européen qu'au niveau suisse. On peut s'attendre à du grand spectacle.
Les vrais spécialistes de sport automobile, quand ils verront le groupe E, avec 75 voitures engagées en groupe E, avec des voitures de 4 à 5 litres, même 6 litres, qui sont là, avec des Ronnie Bracci, des Frédéric Neff et tous ces gens-là, le spectacle sera extraordinaire. Et surtout, la bagarre, parce que ces gens-là se tiennent à quelques centièmes de seconde, même sur 5 km.
Voilà, le directeur de course de la course Saint-Ursanne-les-Rangiers, Roland Picret, qui répondait à Michel Léoni, la course donc qui se déroulera le week-end prochain. Voilà, 12h32 sur RJB, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal, je vous souhaite une excellente après-midi et surtout un très beau week-end.
RJB Sport.